Salut, c'est Steven Jambaud de l'Atelier des médias. On est ensemble pendant 20 minutes à la radio, plus encore si vous avez choisi notre podcast. Ce samedi, cela fait 6 ans, jour pour jour, que Ghislaine Dupont et Claude Verlon, envoyés spéciaux de RFI au Mali, ont été assassinés à Kidal. Ce jour est maintenant la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Aussi, j'ai choisi cette semaine de parler de la sécurité des journalistes qui partent en reportage en zone dangereuse. J'accueillerai tout à l'heure Sami Boukhelifa, qui couvre notamment la Syrie et l'Irak pour RFI. Mais tout de suite, on va écouter le photojournaliste italien Lorenzo Tugnoli. Il couvre le Moyen-Orient, la Libye ou encore l'Afghanistan, principalement pour le Washington Post. Je l'ai rencontré début septembre au festival Visa pour l'image. Il exposait une série de photos sur le Yémen, pays où une guerre civile fait rage depuis 5 ans.
Atelier@rfi.fr.
Au Yémen, il y a des régions contrôlées par Al-Qaïda, d'autres par des milices qui peuvent ne pas être très sympas avec les étrangers. On ne peut pas traverser ces zones. Je pense qu'il faut très bien se préparer, bien se renseigner sur qui vous emmène dans ces endroits et quelle milice est garante de votre sécurité.
Ça veut dire que vous avez toujours un fixeur avec vous ?
Oui, il y a un fixeur, mais aussi un réseau de contacts qui t'aide. Concernant les risques, ce ne sont que des images, des photographies. On ne veut pas mourir pour ça. Je pense que dans les situations qui sont difficiles, dangereuses, il ne faut pas y aller si tu ne le sens pas. Parce que dès que tu ne le sens plus, tu es stressé, ce qui veut dire que tu fais des erreurs. Le Yémen n'est pas le pays le plus dangereux où je suis allé. J'y étais pour couvrir principalement la crise humanitaire. Mais peu importe, même à Mossoul et dans les situations où il y a une vraie guerre ouverte, mon approche est de ne pas être dans des endroits où je ne me sens pas à l'aise. Ce que je fais et ce que je photographie est toujours, d'une certaine manière, quelque chose qui a été proche de moi, au moins physiquement. J'ai couvert l'Afghanistan pendant 5 ans et je vivais là-bas. Et maintenant, je couvre le Moyen-Orient et je vis au Moyen-Orient. Je ne parle pas arabe couramment, mais je me débrouille. Vous savez, de pouvoir simplement dire quelques mots aux gens dans leur langue, ça les fait se sentir plus à l'aise. Une autre chose que j'aime faire souvent est de revenir sur place. Parce que les photographes et les journalistes, on arrive à un endroit, on fait nos interviews, nos photos, puis on part et on ne revient jamais. Je vois souvent que lorsqu'on revient, même quelques jours plus tard, pour suivre ce qui est arrivé à ces gens, il y a souvent une autre réaction de leur part.
Lorenzo Tugnoli insiste sur les rapports humains, sur le terrain, en zone compliquée. C'est aussi un élément fondamental pour Pascal Maître. Ce photographe français parcourt le Sahel depuis une trentaine d'années, principalement pour National Geographic. Je lui ai demandé comment il a assuré ses arrières lors de ses dernières missions au Mali et au Niger.
Je pense que ça se construit. C'est-à-dire vous construisez des cercles de sécurité par les gens que vous connaissez. Vous faites attention. Je pense, pour moi, le plus délicat, c'était le centre du Mali. Parce que le Niger, je connais vraiment très très bien. J'avais une escorte quand je suis allé jusqu'à la frontière libyenne. Et j'y suis allé avec des Touaregs que je connais depuis 30 ans, avec qui j'ai couvert. Donc c'est les gens qui connaissent bien la zone, ça. Évidemment, c'est aussi dangereux, parce que je pense un mois après, le chef militaire du Niger qui contrôle toute cette zone, avec son escorte, a été tué par 14 véhicules qui les ont attaqués dans le même passage. Donc ça reste dangereux. Mais quand même, ça, je pouvais un peu plus maîtriser. Après, il faut faire très attention, c'est-à-dire ne pas dire ce qu'on fait, ne pas rester trop longtemps. Et dans le centre du Mali, j'ai fait très attention, parce que là, vraiment, je pouvais pas le faire avec une escorte ni avec des militaires, parce qu'évidemment, les milices ne m'auraient pas donné accès, j'aurais pas pu avoir accès. Donc là, j'ai été assez prudent, je suis allé juste faire, quand j'avais un rendez-vous, j'allais, le reste du temps, je restais à l'hôtel. Je n'ai pas, ce que je fais d'habitude, j'aime bien me balader, tout ça, dans la zone de Mopti que je connais bien. Je suis très peu sorti. Pour éviter d'être exposé, parce que évidemment dans cette zone-là, qui est quand même, les islamistes sont à 5-6 kilomètres derrière Mopti, Djenné, ils sont à 10 kilomètres, donc vous êtes quand même une
cible.
Une cible vraiment importante. Donc, après, les gens que vous connaissez, vous faites attention, vous allez faire ce que vous, et puis vous disparaissez, et il ne faut pas traîner, quoi. Il faut être prudent.
Avez-vous eu peur parfois ?
Oh là, pas du tout. J'ai été prudent. J'ai bougé quand j'étais à peu près sûr des gens avec qui je le fais. Le plus délicat, c'est quand je suis allé voir les milices Bambara, qui, elles... Alors, j'ai trouvé un jeune gars qui m'avait dit « je peux t'aider » et tout, et tout. Et je le connaissais pas très bien. Je connaissais quelqu'un qui le connaissait très bien. Donc, ça, c'était une sorte de garantie. Et après, quand on est parti, c'était en dehors de Djéné, à une quinzaine de kilomètres, et... Effectivement, la personne qui m'accompagnait savait plus le chemin, ça devenait un peu compliqué. Et là, bon, l'inquiétude, c'est pas une peur, hein, mais vous dites, tiens, peut-être que le gars est pas fiable et que ça craint un peu, quoi. Et après, une fois que j'étais, j'ai fait mes photos et je m'en vais. Faut pas traîner, quoi.
Le photojournaliste Pascal Maître vient de nous expliquer combien la situation peut être mouvante sur le terrain et donc compliquée à apprécier pour les journalistes. On va en parler en longueur avec Sami Boukhelifa, journaliste au service international de RFI, pour lequel il couvre notamment la Syrie et l'Irak. Le 12 octobre dernier, il a été primé au prix Bayeux-Calvados-Normandie des correspondants de guerre, premier prix dans la catégorie radio pour son reportage « Voyage au bout du califat » réalisé en mars 2019. Dans le nord de la Syrie. On écoute ce reportage.
Il est minuit à Barouz. Le village est plongé dans l'obscurité. Les tirs, les frappes déchirent la nuit noire. Nous sommes sur une position avancée des FDS. L'unité du commandant Rostom Hasake est postée sur la terrasse d'une maison. 100 mètres nous séparent des lignes ennemies.
Ce que vous entendez, ce sont les tirs des djihadistes, mais nous allons riposter à l'aide de balles traçantes. L'aviation pourra ainsi avoir une indication de la position terroriste. Nous les poussons à se regrouper pour que la frappe en élimine le maximum d'un seul coup.
La radio de Rostom Hasake crépite. Sur sa tablette, le jeune commandant transmet des coordonnées GPS aux forces de la coalition internationale. Une localisation précise de l'emplacement des djihadistes. Dans le ciel de Barouz, le bombardier C-130 de l'armée américaine ouvre le feu.
Un grand merci à l'oncle Trump. Les Américains nous aident énormément. Ce sont eux qui nous protègent des attaques à la voiture piégée. Leur couverture aérienne nous permet de progresser sur le terrain.
Une progression difficile, surtout de nuit. Les FDS avancent dans le noir total. Interdiction absolue d'allumer une lampe torche ou un téléphone. Les tireurs embusqués de l'EI sont à l'affût. Les combats se poursuivent toute la nuit. Le lendemain matin, nous nous enfonçons davantage dans les rues de Barouz. « Courez dans mes pas », ordonne le commandant kurde Mostafa Bali. Principal danger dans le village, les mines antipersonnelles. Nous passons de maison en maison et très vite se dresse devant nous le dernier carré djihadiste, une sorte de campement sur les rives de l'Euphrate.
On ne peut pas aller plus loin. On n'a pas d'hommes au-delà de cette position. Daesh est juste en face de nous, on aperçoit leur drapeau.
Autour de nous, le sol de Barouz est comme labouré. Stigmates des combats et des frappes aériennes. Partout, des munitions abandonnées par les djihadistes. Il y a aussi des tentes en lambeaux, des matelas et plein de vêtements sales.
Vous voyez toutes ces tranchées autour de nous ? C'est là où les djihadistes entassaient les civils qui leur servaient de boucliers humains. Heureusement, nous avons réussi à évacuer ces pauvres gens.
Parmi les civils évacués, il y a aussi des enfants et des épouses de djihadistes. En quittant Barouz, ils sont dirigés vers un point de rassemblement quelques kilomètres plus au nord, au milieu du désert. Encadrés par l'armée américaine, des milliers de silhouettes noires, des femmes en niqab poussiéreux. Une jeune Française, membre du groupe État islamique, est assise à même le sol. Autour d'elle, ses trois enfants et ses deux béquilles. Elle a reçu une balle à la jambe gauche durant les combats.
Les deux derniers jours, c'était non-stop, des bombardements, des tirs. Ça ne s'est pas arrêté en fait... C'est des corps partout. Et voilà, et moi je me suis pris la balle en marchant dans la rue.
Blessée, elle a finalement renoncé au califat, mais pas à son idéologie. La jeune femme justifie les exactions du groupe État islamique.
C'est comme ça, tout pays massacre une population dans une certaine guerre. C'est comme ça. Mais on vit dans ce pays et c'est tout.
Originaire du sud de la France, la trentenaire refuse catégoriquement d'être rapatriée.
Ben, on est venu, on va repartir. Pourquoi ? Pour séparer. On est venu, on est là, on est en famille, je repars et après quoi ? Je vais en prison, mes enfants ils sont séparés de moi, ils ne voient plus leur père. Vous voyez, on sait que si on part, on est en prison.
Son mari djihadiste est toujours à Barouz. Ce couple de Français convertis est arrivé en Syrie en 2014. Selon les forces démocratiques syriennes, la bataille pourrait durer encore plusieurs jours pour déloger les derniers combattants les plus fanatiques du califat autoproclamé. Sami Bourkhlifa, Barouz, RFI.
Bonjour Sami.
Bonjour l'atelier des médias.
Être récompensé par ses pairs, c'est précieux j'imagine.
C'est très précieux. Je suis vraiment très content et très très fier d'avoir obtenu cette récompense. D'abord pour moi, mais aussi pour ma rédaction, pour RFI aussi. S'il fallait encore une fois prouver que le travail de terrain est important, eh bien voilà. En fait, il faut continuer de travailler sur le terrain, aller chercher l'information là où elle est, et ça paye.
Alors je le disais, les auditeurs de RFI connaissent votre voix, les plus assidus connaissent aussi votre travail. J'aimerais qu'on discute ensemble de tout ce que l'on ne voit pas et de tout ce que l'on n'entend pas lorsque vous êtes sur place et que vous êtes sur RFI. En mars 2019, je le disais, vous étiez à Barouz, en Syrie, aux côtés des forces kurdes soutenues par la coalition internationale. Elles menaient leur ultime bataille contre le groupe État islamique. Comment on prépare une mission comme celle de Barouz?
Alors, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Il faut aussi beaucoup d'énergie pour préparer de telles missions. La procédure sécuritaire est assez lourde, mais la sécurité n'a pas de prix, donc il faut absolument essayer d'encadrer ce genre de mission. Si on pense à Barouz, par exemple, c'est une mission à laquelle on a commencé à réfléchir dès la fin janvier, alors que je me trouvais là-bas déjà une première fois, mais la situation était moins complexe, disons, que durant les derniers moments de la vie du califat autoproclamé. Donc, disons qu'à ce moment-là, en janvier, quand j'y étais, l'opération des forces kurdes n'était pas aussi forte et importante que durant les dernières semaines quand ça s'est joué. Donc la mission a été préparée en amont avec notre directeur sécurité. On a la chance à RFI et France 24, donc au sein du groupe France Média Monde, d'avoir une direction de sécurité depuis fin 2013, début 2014. Et donc on a un accompagnement. Il faut tout encadrer, tout baliser, savoir exactement où on va se rendre avant d'y aller, donc connaître l'itinéraire, connaître les gens avec qui on va travailler, les fixeurs notamment. Les fixeurs, ce sont ces guides entre guillemets locaux qui nous servent à nous autres journalistes sur le terrain. Ils nous guident, c'est un peu notre boussole quelque part sur les terrains dangereux, et nous travaillons avec eux en coordination. Donc il faut préparer tout ça, savoir aussi quel chemin emprunter, parce que lorsqu'on va en Syrie, il faut savoir que le voyage est très très long. On rentre via l'Irak, donc il faut d'abord partir de Paris jusqu'en Irak, généralement dans la ville d'Erbil, dans le nord de l'Irak, puis s'achève la première partie du voyage en avion pour que commence le voyage par route, donc de la ville d'Erbil dans le nord de l'Irak jusqu'à la frontière irako-syrienne. Et puis jusque-là, nous avions l'habitude de traverser en fait la frontière entre l'Irak et la Syrie sur un petit canot, parce que le fleuve Tigre sépare les deux pays. Et puis c'est comme ça qu'on se retrouve, on entre en Syrie.
Et donc comment ça se passe très concrètement en amont? Déjà, vous traitez avec les autorités du Kurdistan irakien ou avec les autorités irakiennes? Et est-ce que vous entrez en Syrie au vu et au su des autorités syriennes, ou alors pas forcément vu la situation sur le terrain actuellement?
Alors, on doit traiter avec différents interlocuteurs. D'abord, les autorités irakiennes du Kurdistan irakien, donc dans le nord du pays, qui doivent nous délivrer une autorisation de passage via leurs frontières. En fait, une fois qu'on est arrivé, ça c'est tout simple. Quand on arrive à Erbil, c'est juste un tampon sur un passeport. Mais ensuite, il faut obtenir l'autorisation de quitter le territoire du Kurdistan irakien pour rentrer dans le territoire du Kurdistan syrien. Et là, il faut aussi une autorisation des autorités kurdes syriennes, mais pas forcément les autorités de Damas. En vue de la loi syrienne en vigueur, nous rentrons illégalement dans le pays. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette zone est un peu une zone peut-être de non-droit, puisque les autorités syriennes se sont retirées de cette partie du nord-est de la Syrie, et c'est le gouvernement, enfin c'est les autorités semi-autonomes du Kurdistan syrien qui délivrent des autorisations de passage à cet endroit.
Revenons sur cette phase de préparation en amont. Donc vous devez préparer le chemin par lequel vous allez passer, donner à la direction de RFI, faire ce qu'on appelle un arrimage sécuritaire pour dire
qui vous allez rencontrer. Mais après, j'imagine que vu la situation sur le terrain, il faut s'adapter. Donc le contact avec Paris est permanent.
Le contact avec Paris est permanent. En fait, le directeur sécurité de RFI nous suit quasiment 24 heures sur 24 et nous suit aussi en temps réel parce que nous avons avec nous des outils de communication satellitaire aussi qui lui permettent de nous voir sur une carte et il reçoit notre position régulièrement.
Donc vous utilisez une messagerie sécurisée également pour échanger avec votre direction éditoriale et la direction sécuritaire.
Alors il y a non seulement la messagerie cryptée que nous utilisons pour communiquer dans un groupe de sécurité entre guillemets, et il y a aussi la messagerie satellitaire qui nous permet de communiquer là où on est, parce que il ne faut pas oublier que nous nous trouvons généralement dans des zones désertiques où il n'y a pas forcément de où les téléphones portables ne captent pas forcément, où il n'y a pas forcément de 3G, de 4G, donc il faut pouvoir rester joignable en permanence et il faut que Paris puisse nous suivre à la trace.
Alors vous avez cet accompagnement, mais c'est vous le premier sur le terrain qui aussi est en mesure déjà de jauger et de juger si c'est dangereux ou pas. Comment est-ce que justement on prend cette décision de se dire il faudrait que j'aille là, c'est éditorialement important mais en même temps c'est dangereux. Où est-ce qu'on met la barre en fait ?
Eh bien en fait chaque situation est différente donc on peut pas, c'est vrai, avant de partir en mission savoir ce que l'on va faire exactement. Chaque situation est différente, la situation, le contexte est fluctuant aussi en permanence entre une mission faite au mois de janvier et une mission faite au mois de février, le contexte peut avoir radicalement, mais
c'est très mouvant.
Voilà, c'est très très mouvant. Donc c'est à nous, on s'adapte, mais il y a aussi une confiance qui s'instaure entre nous, journalistes et équipe journalistique de RFI sur le terrain et aussi notre direction de sécurité. Le directeur de la sécurité qui nous accompagne, il n'est pas là pour nous empêcher de travailler, il est là pour veiller à notre sécurité. Et donc nous nous adaptons en fonction des situations. Et je pense que le plus important, c'est d'avoir en tête, nous ne sommes pas des têtes brûlées. Il faut être très très prudent. Aucune information ne vaut la vie d'une personne. La vie humaine prime d'abord et avant tout. Et donc, nous décidons en fonction de l'importance de l'information, mais aussi en fonction de la sécurité, de notre propre sécurité. Donc si nous jugeons à un moment que c'est une mission, ou en tout cas se rendre sur un endroit donné et suicidaire, eh bien on peut bien sûr y renoncer. C'est moi le premier sur le terrain à prendre la décision.
Et votre instinct, pour l'instant, joue pour vous ?
Pour l'instant, oui, mais bien sûr que j'ai fait des erreurs sur le terrain. Et puis, la chance a fait que je m'en sorte bien. Mais voilà, donc on apprend aussi de ces erreurs. Et on fait en sorte de ne plus les répéter aussi. Et donc voilà, donc l'instinct est primordial. Mais encore une fois, il faut y aller en ayant en tête que le plus important reste la sécurité d'abord et avant tout.
Le stress doit être permanent, j'imagine. Revenons sur Barouz. Dans votre reportage Prima Bayeux dont je parlais tout à l'heure, vous expliquez que la nuit, il y a eu une interdiction totale d'allumer une lampe torche ou un téléphone en raison des risques d'être visé par un tireur embusqué.
Alors, le stress, pour vous dire la vérité, le stress est beaucoup plus important avant un départ en mission que lors d'une mission.
Pourquoi ?
Parce que il y a toujours une appréhension avant de partir. Et je pense que c'est une appréhension normale, il faut l'avoir. Si on l'a pas, il faut au contraire se poser la question pourquoi on n'a pas peur d'y aller. Avoir un peu peur ou avoir peur, c'est normal. Être paniqué, c'est autre chose. Il ne faut pas être complètement sujet à la panique, mais avoir cette peur et ce stress qui monte avant une mission, c'est normal parce que à chaque fois, on va vers l'inconnu. Et c'est cet inconnu qui fait en sorte qu'il y ait cette crainte un peu permanente. Mais une fois qu'on est sur le terrain, je pense que la peur laisse disparaître petit à petit et c'est plutôt un bon stress qui l'emporte. On est dans l'événement, on le vit et on vit les choses comme elles sont. On est là, on juge ce qu'il y a de bon à faire ou de moins bon à éviter. Et lorsqu'on y est, on y est. Vous citez l'exemple de cette fameuse nuit à Barouz. C'est vrai que c'est le seul reportage peut-être de ma vie que j'ai tourné dans le noir total, mais quand je vous dis que c'était une nuit noire, c'est Je n'ai pas souvenir aujourd'hui du visage de mes interlocuteurs. C'est-à-dire que j'ai accompagné une unité de combattants des forces démocratiques syriennes qui luttaient contre les djihadistes du groupe État islamique. Nous sommes arrivés à une position tenue par les FDS. J'ai interrogé donc le commandant de la position sans le voir parce qu'il fallait absolument rester dans le noir parce que la moindre petite lumière pouvait faire en sorte de dévoiler notre position à l'ennemi qui était à quelques dizaines voire centaines de mètres de là.
Là, c'est l'avantage de la radio. Est-ce que sur le terrain, être un journaliste radio et ne pas avoir justement de caméra, d'écran est une facilité parfois?
De toute façon, la presse écrite est beaucoup plus flexible. Les journalistes de presse écrite peuvent travailler peut-être de manière un peu plus facile. Il suffit d'être à un endroit, d'avoir entendu une phrase pour la rapporter en toute fidélité. Nous, on a la contrainte du son. Il faut que le son soit parfait. Les gens de télé ont la contrainte de l'image. En plus, bien sûr, donc nous, pour nous autres journalistes radio, ça nous offre peut-être une facilité, mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui à RFI, on tourne de plus en plus. Ça a été une mission durant laquelle j'ai tourné enfin des reportages vidéo. En l'occurrence, cette nuit-là, ça ne s'y prêtait pas du tout. Donc, ça a été un pur produit radiophonique qui a été réalisé cette nuit-là.
Et comment gérer les impératifs de production d'une chaîne d'information qui vous envoie sur le terrain et donc on attend aussi une production journalistique, éditoriale. Et il y a des jours où j'imagine que bien vous n'avez pas la matière.
C'est compliqué. C'est une négociation de tout instant. Voilà. Donc c'est vrai que on imagine parfois dans l'imaginaire collectif qu'un terrain de guerre, c'est un peu les tranchées, c'est 14-18 avec des gens qui s'entretuent du matin jusqu'au soir. Le terrain de guerre, c'est aussi beaucoup d'attentes et beaucoup de jours où il ne se passe absolument rien. Nous, ce que nous faisons à travers les reportages, même si c'est un reportage radio, et en fait c'est une sorte de photographie. À un instant T, on saisit un moment, un jour où les combats ont repris, on est là, on assiste à ce moment, on enregistre tout, et puis on peut derrière produire. Mais c'est vrai qu'il y a des jours où c'est très très compliqué, et il faut réussir quand même à alimenter une antenne comme celle de RFI avec des journaux toutes les heures. Il faut aussi faire ce qu'on appelle du marbre. Donc lorsqu'on a l'occasion de tourner énormément, on tourne énormément, et puis on diffuse petit à petit des événements qui se sont passés peut-être quelques heures auparavant, voire un jour ou deux, tout en le précisant à nos auditeurs.
Pour mettre le contexte, faire du reportage international de format un petit peu plus long, etc. Quoi. Vous êtes parfois seul sur le terrain, mais parfois aussi avec un technicien de reportage ou un fixeur. Parlez-nous justement de leur rôle, des techniciens de reportage déjà.
Le rôle du technicien de reportage est essentiel à plus d'un titre. D'abord sur le côté technique, c'est vrai que aujourd'hui, en tant que journaliste radio, on est appelé à tout faire quelque part. Autant tourner que monter, que mixer, qu'écrire, que transmettre. Mais par ailleurs, les missions en zone dangereuse sont des missions tellement compliquées et tellement lourdes à monter que le soutien et l'assistance quelque part du technicien de radio est primordial. Une mission sur un terrain comme celui-ci, ou d'ailleurs peut-être n'importe quelle autre mission radio, c'est parfois 20 heures, voire 22 heures de travail par jour. Véritablement, on finit de tourner ces éléments, de les monter, les mixer vers 1h, 2h du matin, de les envoyer à ce moment-là avant de reprendre l'antenne le lendemain matin à 6h, 7h ou 8h pour être en direct dans les journaux. Donc c'est des missions très très compliquées et où il faut avoir l'assistance et le soutien technique de quelqu'un qui est un professionnel aussi, parce que avoir des liaisons, pouvoir se connecter dans le désert parfois à des satellites pour pouvoir envoyer sa production est très très compliqué, même si en tant que journaliste on sait le faire. On ne sait pas aussi bien le faire qu'un véritable technicien qui lui, moi je j'ai pu me retrouver à un certain moment, parfois, où je n'ai pas vu, je n'ai pas fait de mission avec un technicien, me retrouver à minuit là-bas à appeler la technique à Paris pour demander pourquoi j'ai tel ou tel problème de connexion via le satellite et avoir le soutien du technicien. Donc voilà, d'une part, donc il y a tout l'aspect technique du technicien, mais il y a aussi l'aspect humain. C'est des missions tellement compliquées, tellement dangereuses qu'il faut être deux, et d'ailleurs c'est ce qu'exige aujourd'hui la direction sécurité de RFI et France 24, on ne va jamais sur un terrain dangereux tout seul. Il faut absolument être deux au minimum. Et voilà, donc il faut qu'on parte avec un technicien ou avec un deuxième journaliste, et donc il est essentiel d'avoir une personne en qui on a confiance, une personne donc qui nous accompagne, avec qui on peut échanger. En fait, c'est une sorte d'ami aussi qui est là, parce que la pression est tellement forte qu'il faut pouvoir en discuter en permanence avec quelqu'un.
Et tous les deux avaient fait en amont un stage de préparation à ce genre de mission en zone dangereuse, donc et vous avez des mises à jour régulière pour justement apprendre à jauger.
Tout à fait. Donc il y a aujourd'hui, heureusement, on a la chance à RFI d'avoir cette formation sécuritaire. Donc moi, ma dernière remonte à 2017, et parfois avant chaque mission dangereuse, on a une petite piqûre de rappel. C'est une formation qui est assez complète, qui gère à la fois le côté médical, apprendre à arrêter une hémorragie en zone de guerre. Il ne faut pas oublier, dans l'imaginaire collectif, parfois, on imagine une zone de guerre ou alors une blessure de guerre comme on pourrait le voir à la télé, c'est-à-dire qu'une balle rentre dans un... On prend une balle dans une jambe, dans un bras, et puis ça fait un petit trou qui est presque aseptisé, j'allais dire, enfin qui est une blessure nette, alors qu'une blessure de guerre peut être une blessure très très violente qui peut arracher un membre. Donc il y a tout le côté médical, sans oublier que 80% des blessures de guerre ou des décès, en tout cas sur zone de guerre, sont causés par des hémorragies, et il faut juste apprendre en fait à arrêter une hémorragie. Donc il y a tout ce côté dans la formation sécurité,
côté médical,
donc apprendre à poser un garrot, apprendre à arrêter une plaie, une hémorragie, apprendre à soigner une plaie perforante au thorax. Il y a aussi tout le côté sécuritaire, informatique et communication. Donc c'est une formation qui est assez complète, qui est mise en place aujourd'hui et qui peut nous apprend tout ça, mais qui nous apprend aussi que chaque situation est différente et que cette formation n'est pas là pour nous apporter des réponses toutes faites quelque part. Au contraire, c'est une formation qui vise à nous aider à acquérir certains réflexes qu'on doit avoir à l'esprit tout le temps lorsqu'on est sur une zone dangereuse.
Et qui mieux que les fixeurs pour connaître la zone sur laquelle vous vous rendez ? Vous qui allez régulièrement depuis plusieurs années en zone syro-irakienne, y a-t-il des fixeurs avec lesquels vous travaillez régulièrement et avec lesquels vous avez noué un lien particulier ?
Alors le fixeur est plus qu'essentiel sur une zone dangereuse, bien sûr. Enfin, je le disais tout à l'heure, je le répète, c'est véritablement notre boussole sur le terrain. En zone irakienne, j'ai eu la chance de travailler avec un fixeur, surtout qui aujourd'hui, enfin, qui malheureusement a été tué lors des combats pour la libération de la bataille de Mossoul, à un moment où mon fixeur travaillait avec une autre équipe de journalistes français. Voilà, c'est quelqu'un qui connaissait son métier, c'est quelqu'un qui connaissait son terrain, son pays, c'est quelqu'un qui a travaillé en tant que fixeur en Irak de 2003, de l'invasion américaine jusqu'à 2017, et puis malheureusement il nous a quittés en 2017 lors de cette bataille de Mossoul. Donc voilà, c'est des gens en qui il faut avoir confiance. Et c'est des gens qui nous guident dans notre travail de tous les jours. Il faut les écouter. Lorsqu'un fixeur dit « on n'y va pas », on n'y va pas. Il faut pas essayer de le... Et c'est ça, je crois, la force et ce qui fait un bon fixeur. C'est celui qui peut dire à son équipe de journalistes étrangers « aujourd'hui, c'est non ». Et lorsqu'un fixeur dit « c'est non », il ne faut pas chercher à faire autrement.
On parle de la mort parfois entre journalistes sur le terrain.
On peut l'évoquer, oui, mais on est conscient que ça fait partie du risque. pas plus qu'à Paris, pas plus que voilà. Aujourd'hui, les événements sont ce qu'ils sont. Et on peut aujourd'hui perdre la vie à Paris aussi bien dans un attentat qu'à l'autre bout de la planète. Si vous prenez l'exemple de la ville d'Erbil, par exemple, dans le nord de l'Irak, sur les 10 dernières années, il y a eu plus d'attentats à Paris qu'à Erbil. Et pourtant, Erbil s'est trouvé à un certain moment à 40 kilomètres des lignes de front et des zones contrôlées directement par le groupe État islamique. Donc voilà, enfin, c'est quelque chose qu'on a à l'esprit, mais qu'on peut évoquer, oui et non. Donc voilà.
Quels sont vos trucs et astuces pour vous détendre sur le terrain ?
Ça dépend avec qui je suis. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que celui qui nous accompagne, celui avec qui on forme une équipe, il faut absolument être en totale confiance et être détendu avec cette personne. Cette année, donc j'ai eu à travailler énormément avec des techniciens de RFI. Cette année, les missions qui ont été montées en Syrie notamment, ont été montées avec notre correspondant en Irak, Noé Pignan. Donc on a appris à se connaître, on a appris à devenir de véritables amis en fait sur le terrain, et c'est très important d'avoir une personne de confiance à ses côtés en permanence, et on s'aide de manière permanente, et on arrive à détendre l'atmosphère et à dédramatiser des événements véritablement chaotiques. Et en fait, on arrive à dédramatiser cette situation pour prendre du recul et pouvoir discuter un peu de manière sereine.
Vous revenez tout juste de mission, et au moment où cette interview sera diffusée, vous serez déjà reparti pour Bagdad.
Disons que je serai en partance.
Vous serez en partance, voilà. Pour Bagdad. Quelle est votre drogue ?
Moi, je fais beaucoup de sport, en fait. Voilà, je ne fume pas, je ne bois pas de café, contrairement à la plupart des journalistes, peut-être qui, voilà, malheureusement, c'est un peu fumer énormément ou boire énormément de café, c'est la drogue de pas mal d'entre nous. Moi, je fais énormément de sport. J'essaye de faire du sport quotidiennement, au moins une heure tous les jours. Voilà, et ça m'aide. Enfin, ça m'aide à tenir le coup sur des terrains compliqués. Il faut pas oublier qu'un gilet pare-balles aussi pèse 12 kilos et qu'on l'a en permanence sur le dos. Un casque est extrêmement lourd. Il y a aussi notre trousse médicale, notre matériel radiophonique. C'est voilà. Donc en termes de logistique, il faut aussi pouvoir être tenir le coup physiquement dans ce genre de mission. Il y a aussi, je vous cite l'exemple du mois de mars. Ça a été une période très très compliquée. Les forces démocratiques syriennes, donc les Kurdes, il ne faut pas oublier que ce n'est pas une armée régulière, c'est une milice où la logistique n'était pas forcément adéquate à chaque moment. Donc on s'est retrouvé durant plusieurs semaines avec très très peu de nourriture, avec très très peu d'eau aussi. Donc je pense qu'être prêt physiquement aide aussi à tenir le coup sur ce genre de terrain.
Et quand on revient, justement, est-ce qu'il y a un suivi psychologique qui vous est proposé parfois ou...
Le suivi psychologique a été mis en place depuis pas mal d'années à RFI via cette direction de la sécurité qui est aujourd'hui qui existe donc depuis 2014. Je n'ai jamais ressenti le besoin de parler de ce que j'ai vu sur le terrain. Parfois, les images sont atroces. Je me rappelle de la bataille de Mossoul où il y avait énormément de cadavres dans les rues. Lorsque je parle de cadavres, c'est des cadavres en décomposition. C'est aussi des corps parfois coupés en deux. On se balade dans la rue, on avance dans les rues de Mossoul et on peut tomber sur un tronc d'un côté, des jambes de l'autre. Donc c'est vraiment très très difficile. Je pense que ce qui est primordial, c'est d'en parler en permanence. En tant que journaliste, nous avons la chance de rapporter à l'antenne ce que l'on voit. En tant que technicien, c'est peut-être un peu plus compliqué parce que le technicien est là pour assurer tout ça, pour assurer la transmission, le mixage, le montage. Mais il n'en parle pas forcément. Lui, en tout cas, il ne verbalise pas ce qu'il a fait, contrairement à nous. Donc il est important d'en parler entre collègues sur le terrain. Pour le moment, ça nous aide tous, le fait d'en parler. En tout cas, il n'y a pas de traumatisme qui a été créé à cause de ça. Parce que la parole évacue les traumatismes. Mais en tout cas, au besoin, on sait qu'il y a une équipe de psychologues qui est dédiés et qu'on peut appeler même depuis l'étranger. Ils sont joignables 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour le moment, je n'en ressens pas le besoin. Peut-être qu'un jour, j'en ressentirai le besoin. On verra à ce moment-là.
Et en parlez-vous avec votre famille ?
Oui, j'en parle avec ma famille. Quand je suis sur le terrain, je ne dis pas forcément tout pour que mes proches soient rassurés. Une fois que je rentre à Paris, il peut m'arriver d'en parler. Après, c'est vrai que c'est un métier très passionnant que l'on fait. Généralement, on en parle aussi énormément en société, parce que dès que les gens savent qu'on est journaliste, qui couvrons le Proche et Moyen-Orient, ils ont généralement énormément de questions sur ce que l'on vit là-bas. Et du coup, voilà, donc en fait, on en parle peut-être de manière régulière et permanente.
Merci beaucoup, Sami Bourhelifa.
Merci infiniment.
Et que vos missions soient sûres.
J'espère.
À bientôt.
Au revoir.
C'est bientôt la fin de cette émission, place à Mondoblog Audio. Le mondoblogueur haïtien Nixon Digassin a écrit un vibrant hommage à Ghislaine Dupont et Claude Verlon, envoyés spéciaux de RFI assassinés au Mali il y a 6 ans, jour pour jour. À travers eux, il s'adresse à tous les journalistes dont la mission d'information est difficile et parfois très risquée.
Je veux livrer ces quelques mots aux journalistes du monde entier qui sont victimes de menaces et à tous ceux qui ont été engloutis par la barbarie des livreurs de deuil. Journaliste, qu'as-tu fait de si grave pour mériter une telle fin? Quel crime as-tu commis pour être soumis à tant d'injustice et d'atrocité? Ton seul crime, c'est d'avoir été un journaliste impartial, un éclaireur. Ton péché impardonnable, c'est de t'être engagé à apporter à tes concitoyens, dans des conditions parfois très difficiles, des informations sur ce qu'il se passe dans tel ou tel pays. Ta bravoure, ta rectitude et ton refus de vendre ton âme t'ont disgracié aux yeux de ceux qui passent leur vie à essayer de cacher le soleil. Journaliste, tu as donné ton sang pour un monde plus juste. Mais malheureusement, l'impunité ne s'est pas arrêtée, car il continue à torturer et à tuer les journalistes. Mais par-delà de tous ces dangers de mort et des obstacles de toutes sortes, des jeunes prennent la relève. Ils continuent le travail, la noble mission d'informer. À tous les journalistes martyrs qui sont là-haut, à vous Ghislaine Dupont et à Claude Verlon, sachez que nous ne vous oublions pas. Ghislaine, Claude, nous ne vous oublions pas.
Mondoblog.org. C'était Nixon Digassin, il nous lisait un billet intitulé « Journaliste, qu'as-tu fait de si grave ?» que vous pouvez retrouver sur son blog « Mon pays à l'œil nu ». Rendez-vous sur mondoblog.org pour retrouver les productions de centaines de blogueurs francophones, un site qui vient tout juste de faire peau neuve et dont on est très fier. Je vous invite aussi à vous rendre sur le site de l'UNESCO qui publie une carte des assassinats de journalistes dans le monde. Plus de 1000 journalistes ont été tués au cours de ces 12 dernières années. Si certains sont morts dans des zones de guerre, d'autres, la plupart en fait, ont été tués chez eux, au coin de leur rue, en bas de leur bureau, de sang-froid. Que ces crimes restent impunis est révoltant. C'est la fin de cette émission que vous pouvez, je vous le rappelle, écouter en version longue sur notre podcast. Merci à Camille Deloche pour Mondoblog Audio, à Camille Sarrazin pour le coup de pouce pour traduire Lorenzo Tugnoli et évidemment à Simon De Creuse qui était à la réalisation. Je m'appelle Steven Jambeau et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On parlera du livre Dans la tête de Mark Zuckerberg. Vous savez, le patron de Facebook. J'aurai le plaisir de recevoir son auteur, le journaliste Julien Lebotte, dans cette émission qu'il connaît bien, l'Atelier des médias.